carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Annie Regon.
Bienvenue dans ce carrefour des arts. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir M. Alain Erland Brandenburg, conservateur général honoraire du patrimoine et historien de l'art. Aujourd'hui, nous allons parler de l'abbaye de Chalis, qui est un des monuments appartenant à l'Institut et qui est actuellement un monument peut-être un petit peu moins connu que certains autres lieux. C'est pourquoi nous allons nous attacher essentiellement aujourd'hui à l'abbaye, à son histoire et à l'apparence actuelle, au monument qu'elle représente aujourd'hui. Monsieur Erland Brandenburg, voulez-vous nous rappeler, s'il vous plaît, quelle est l'origine de cette abbaye, qui en a été le fondateur, si on le connaît, et puis quelle a été son évolution dans le paysage où elle se trouve actuellement?
Alors l'abbaye de Chalis était d'abord une fondation d'un personnage qui était important, Renaud de Melot, qui en revenant de la croisade, et parce qu'il était revenu indemne, a décidé de faire une fondation comme c'était l'usage à cette époque-là, et cette fondation était une fondation au départ bénédictine, c'est-à-dire sans manifester un destin tout à fait particulier. Et très rapidement, Melot s'est aperçu que, impressionné par le mouvement cistercien, il a un peu changé son fusil d'épaule et a décidé de se rapprocher de cet ordre qui était en plein éclatement, en pleine expansion, grâce notamment à la personnalité extraordinaire de Bernard de Clairvaux, qui n'est pas le fondateur, comme on le croit trop souvent, mais qui a joué un rôle à la fois d'intellectuel, qui a réfléchi, mais qui a été aussi, ce qu'on oublie, un admirable organisateur.
Et un orateur excellent.
Et un orateur tout à convaincant. Fait remarquable, convaincant.
Et alors c'était donc du vivant même de Saint-Bernard, cette fondation?
Cette fondation était du vivant de Saint-Bernard, mais au départ échappait à la personnalité de Saint-Bernard, il était encore trop jeune. Dans les années à peu près 1120, ça devient l'un des grands personnages de l'Europe. Et Renaud de Melot, marqué d'autre part par l'influence de Louis VI. En effet, en 1127, il y a eu une affaire absolument terrible. Charles de Blois, qui était comte de Flandre, a été assassiné à Bruges. Ce comte de Blois était parti pour la croisade, failli être nommé, mais avait refusé roi de Jérusalem, et assez proche de Louis VI. Ça a été, dans l'Europe entière, un choc très violent de quelqu'un qui était respecté pour sa foi, pour sa piété connue, et puis par le fait qu'il s'était croisé. Il a été canonisé, mais beaucoup plus tard, à la fin du XIXe siècle. C'est vous dire que Louis VI, très impressionné, a décidé de se rapprocher de Renaud de Melot et de l'inciter à donner une dimension particulière à son fondation en la rattachant à l'ordre de Cîteaux et d'autre part en réservant un statut particulier au souvenir de Charles de Blois. En fait, on ne sait pas très bien ce qui a été fait. Je vais peut-être émettre des hypothèses, mais c'est un peu délicat.
Parce qu'en principe, il n'y avait pas d'inhumation dans les églises cisterciennes, au départ du moins.
Au départ, il n'y en avait pas, mais très rapidement, il y en a eu. Et notamment à Chalis, il y a 17 évêques de Senlis qui ont été enterrés dans l'abbatiale. C'est un phénomène que l'on voit assez fréquemment, généralement des abbayes bénédictines, puisque les évêques ne pouvaient pas être enterrés dans une ville, suivant la loi des 12 tables romaines. Ils ont trouvé le moyen pour se sortir de cette difficulté, jusqu'au XIIe siècle, de se faire enterrer dans une abbaye qu'ils avaient ou fondée ou favorisée. Et les évêques de Senlis, qui se sont montrés tout de suite très proches de Chalis, se sont fait enterrer dans le chevet.
Donc, on avait déjà un lien fort avec Senlis.
Oui, parce que dans l'opération de Louis VI, c'est évident que Renaud de Melo est un personnage important, mais qui n'a pas le rayonnement d'un roi de France. Tout de suite, Louis VI a battu le rappel de toute la noblesse du nord de la France, des grands personnages, pour favoriser la fondation et pour apporter les moyens de vivre. Je précise d'ailleurs, parce qu'il faut faire très attention aux mots qu'on utilise, que ce sont en fait des subventions qui sont données, qui laissent alors toute liberté d'action, et que ces subventions n'imposent pas de la part du Seigneur l'autorité sur le programme, sur le choix du plan, comme on dit trop souvent. C'est-à-dire, nous sommes au début de l'ordre de Cîteaux, qui est un ordre qui a rompu avec l'ordre bénédictin pour un certain nombre de raisons, et parmi ces raisons, il y a la volonté, comme toujours, de retourner aux sources de l'ordre bénédictin telles qu'elles ont été définies par saint Benoît. Il y a eu véritablement une émulation absolument extraordinaire, ce qui a donné des moyens financiers gigantesques. Moyens financiers, c'est quoi? Ce sont des dons, des propriétés,
des terres
qui assuraient un revenu, des forêts, et très rapidement, l'abbaye s'est trouvée à la tête d'un territoire absolument gigantesque qui en fait l'une des grandes abbayes cisterciennes du nord de la France.
Et donc les moyens n'ont pas manqué pour construire là.
Et alors les moyens évidemment n'ont pas manqué pour construire, et la dernière opération a été, à la demande de Louis VI, de s'adresser à Pontigny pour qu'on envoie des moines de Pontigny, 12, comme les 12 apôtres, c'était la tradition. Il fallait 12 moines, dont l'abbé, qui était un personnage également important, Robert de Bonnemont, qui en prenne la tête et qui puisse fonder un monastère. Il fallait, dès le départ, convaincre des religieux. Et ce sont les religieux de Pontigny qui ont été convaincus et qui ont donné, en 137, son caractère à cette abbaye, à Chalie. C'est dire que c'est une filiale de Pontigny et que c'est tout à fait intéressant dans le domaine de la réflexion, parce qu'à cette époque-là, Pontigny est un peu à la pointe dans certains domaines de la réflexion et ensuite, à la fin du XIIe, de l'architecture.
De l'architecture. Mais Pontigny est en Bourgogne.
Oui, Pontigny
est donc,
en
Bourgogne. Et donc, est-ce qu'on peut...
Oui, il faut faire très attention à cela.
Oui.
Parce que je ne crois pas, nous sommes dans un monde spirituel, et que les réalités géographiques sont un peu secondaires, beaucoup plus secondaires que ce qu'on croit. La filiation est spirituelle, et l'influence géographique à laquelle les historiens de l'art roman accordent une importance démesurée n'a pas lieu d'être. C'est la filiation spirituelle qui compte... Comme d'ailleurs, à notre époque, les étudiants ont été marqués par tel professeur, quelle que soit l'origine du professeur,
et quelle que soit l'origine de l'étudiant.
Oui. C'est-à-dire, le lieu de naissance...
Oui, n'est pas aussi important qu'on veut bien le dire.
N'a strictement aucun intérêt.
Oui, puis de toute façon, autant que je me souvienne, les cisterciens ont l'habitude d'utiliser les matériaux locaux et d'essayer de coller au plus près avec la construction la plus raisonnable possible.
Il y a évidemment, chez ce qui a été la grosse opération de Saint-Bernard, c'est que, je pense que je ne suis pas seul à le dire maintenant, Saint-Bernard a imaginé le plan du monastère. Et c'est un fait capital, car la réflexion antérieure, elle remonte au début du 8e siècle, avec ce qu'on appelle le plan dit de Bâle, qui est en fait un exemplum, le plan d'aménagement d'un monastère idéal, dans lequel se trouvent concentrées toutes les activités pour assurer l'autonomie de l'abbaye, sans ces valeurs obligatoires. C'est simplement un cadre de réflexion. Alors, Saint-Bernard est allé un tout petit peu plus loin. Il a réfléchi d'abord à un monastère extrêmement concentré. Il faut faire la différence entre le monastère et l'abbaye. L'abbaye, c'est l'ensemble de la propriété de l'institution. Le monastère, c'est la vie rétrécie autour de l'église des moines. Et il a réfléchi à cette organisation du monastère pour tenir compte de tous les besoins des moines et faire en sorte que leur vie s'effectue de façon tout à fait agréable. Dans cette réflexion qui est très nouvelle, qui n'avait jamais été poussée aussi loin, il prend en compte la réalité humaine. Vivre dans un monastère, c'est-à-dire en dehors du monde, les moines rompent avec le monde, avec la vie sociale, rompent avec la réalité extérieure, et leur vie, c'est le monastère. C'est-à-dire qu'ils y passent 24 heures sur 24, 364 jours par an.
Et ils sont quand même très nombreux, souvent.
Et en effet, c'est quelquefois une centaine, sans compter les qu'on connaît moins, les convers.
Les convers.
Donc nous sommes devant une réalité humaine qui n'était pas prévue au départ lorsqu'on a fondé l'ordre de Cîteaux, mais le succès de cet ordre a été tel, parce qu'il correspondait à une sensibilité particulière des gens de cette époque-là. Je rappelle que ce sont des aristocrates. Hein. Il ne faut pas imaginer qu'il y ait autre chose. Je parle des moines de cœur qui sont prêtres et non pas des convers qui sont, comme on les appelait, les barboutis, les barbus, qui baragouinaient un peu de latin, qui savaient à peine lire, pas tous, puisque certains, par humilité, entraient chez les convers. C'est donc la représentation d'une société duale. D'un côté, l'aristocratie qui parle le latin, qui est à l'aise avec la réflexion spirituelle, et de l'autre, les manuels qui sont un peu au service des premiers. Et il a organisé cette double communauté en séparant bien...
Avec le couloir.
Avec la rue, la ruelle qui sépare... la partie réservée aux moines de cœur de celle qui est réservée aux convers, et en trouvant un lieu de réunion qui est l'église, dans lequel toute la partie orientale est réservée au sanctuaire, au-delà du transept, au cœur des religieux, et au début de la nef, aux convers. Et pour que tout ça circule bien, l'aménagement du cloître, qui est un lieu particulièrement important, puisque c'est là où circulent les moines en priant, en lisant à voix haute, puisqu'on ne lit pas à voix basse à cette époque-là. Ils mènent une vie évidemment extrêmement dure, mais, et c'est essentiel, et Saint Bernard l'a pris en compte, le calme, la sérénité venaient de la beauté des édifices. On a beaucoup dit que Saint Bernard était contre l'art, il était contre le superflu, ce qui est un tout petit peu différent, mais au contraire, il considérait comme essentiel que la vue, la vision des moines soit apaisée,
harmonieuse.
Et d'ailleurs, on le constate aujourd'hui, oui, dès lors qu'on entre dans un monastère cistercien.
Voilà, c'est ce qui est extraordinaire, c'est qu'encore aujourd'hui, on peut tout à fait se rendre compte de ce que vous dites.
Il est tout à fait frappant de voir les visiteurs. Quand vous entrez, ils sont nombreux, ils descendent des quarts, ils pénètrent dans le monastère et ils parlent à voix basse. C'est automatique, c'est tout à fait impressionnant. Et dans ce schéma de beauté des édifices, beauté à tout point de vue, qualitative, mise en œuvre, choix des pierres, etc., il s'ajoute un élément qui est essentiel si on réfléchit, c'est l'eau. C'est l'eau, puisque vous avez un lavabo, où l'eau coule en permanence. Et cette audition de l'eau est un élément calmant.
Eh bien, nous allons reprendre ce projet de reparler de l'eau tout à l'heure, parce que nous allons faire une petite pause.
Dans sa médiathèque, Canal Academy vous donne rendez-vous avec Alain Decaux. Comment lui est venu le goût de l'histoire? Quel est son point de vue sur l'objectivité historique? Quels sont ses combats? Quelles sont ses fiertés, ses projets? Alain Decaux se livre en toute vérité et quand il raconte, on retrouve le Decaux que nous avons tous aimé écouter à la télévision à la radio. Alain Decaux est sur Canal Académie.
Nous sommes avec monsieur Alain Erland Brandenburg, conservateur général honoraire du patrimoine, et nous parlons aujourd'hui de l'abbaye de Chalice, donc cette abbaye cistercienne qui se trouve tout près de Senlis et qui appartient aujourd'hui à l'Institut. Alors nous avons évoqué le cadre général de la création des monastères cisterciens et nous avons parlé de l'eau, donc qui est un élément important dans la construction et on peut même dire dans le choix du site. Et aussi dans les débuts de l'installation des moines.
C'est également une réflexion qu'a conduit Saint-Bernard, c'est-à-dire la question de l'eau. Il y a d'ailleurs qui est illustré par un très beau poème du XIIIe siècle dans lequel on raconte, dans un monastère cistercien, le rôle de l'eau. Il est essentiel, elle passe partout, à la cuisine évidemment, nettoie les latrines.
Le vivier souvent aussi.
Oui, elle termine dans le vivier. Et ce parcours de l'eau est évidemment un parcours qui a été pensé d'avance. Et là aussi, c'est un point sur lequel on n'a pas beaucoup insisté, mais qui est essentiel, et qui fait songer évidemment à la tradition romaine. C'est-à-dire qu'avant de construire une ville, les Romains réglaient le problème de l'eau propre et de l'eau sale, c'est-à-dire d'arriver des eaux qui servaient à se sustenter, et puis d'autre part, à s'en débarrasser. Et Saint-Bernard, dans les plans qu'il a imaginés, l'eau tient un rôle capital. Ce n'est pas la première fois, on a d'autres exemples antérieurement, mais à partir de là, ça va être très bien organisé, tellement bien organisé, que certains monastères ont été abandonnés, plutôt l'emplacement, Fontenay, parce que le système de l'eau n'était pas convenable et que soit il n'y avait pas assez d'eau, soit que la pression de l'eau n'était pas suffisante, puisqu'il fallait, entre autres, alimenter le lavabo. Et vous avez eu, avant les travaux, un plan qui a été imaginé avec toute cette arrivée de l'eau. Dans certains monastères, il y a des conduits en bois, qui ne sont pas en plomb, en bois, de 30 km de long pour apporter l'eau au monastère. Nous avons là, donc, dès le départ, une pensée très forte. Ensuite, évidemment, les bâtiments se construisent au fur et à mesure, avec un point qui est très important. On commence d'abord, non pas par l'église, comme on le dit, mais par les bâtiments monastiques. Il faut assurer la vie normale des individus. J'insiste un peu là-dessus, parce que vivre en communauté d'une centaine de personnes, d'hommes, ce n'est quand même pas très commode.
Oui, il faut vraiment prévoir ces questions d'alimentation en eau pour la nourriture et pour la toilette, le réfectoire, la cuisine telle qu'on l'a décrit enfin, dans le plan type, et puis telle qu'on peut la voir par exemple encore aujourd'hui à Alcobaça, où il y a encore l'eau qui passe dans la cuisine, c'est vrai que c'est absolument primordial.
Primordial, oui.
Et alors à Chalice, est-ce qu'on a retrouvé quelque chose ?
Alors, à Chalice, la destinée de Chalice a été comme beaucoup d'abbayes, c'est-à-dire qu'en 1790, le bâtiment a été nationalisé, puis a été aménagé, l'église a été vendue. L'église, pourquoi vendue ? Parce que les bâtiments sont tous de très belle qualité, mais l'église plus encore. C'est-à-dire que ce sont des très belles pierres qui se vendaient très bien, il n'y avait pas à les sortir des carrières, elles étaient là, et qu'il reste très peu de choses de l'église. Mais enfin, c'est un bâtiment qui faisait 90 mètres de long, ce qui n'est pas rien, et qui d'autre part a un plan très original, puisque généralement les abbayes cisterciennes ont un chevet plat. Là, c'est un triconque, c'est-à-dire les transepts sont arrondis et le chevet est constitué d'une travée plus d'une abside. Alors on s'est beaucoup interrogé sur ce plan, c'est un plan antique, tout à fait antique, il n'y a pas de problème, mais qui s'est poursuivi jusqu'à des époques tardives. Saint-Germain-des-Prés avait ce plan triconque et ça permettait d'amplifier le nombre d'autels. On pouvait mettre dans chacun des bras 7 autels. C'est l'époque où et également Saint Bernard recommandait la célébration fréquente de la messe. Or, on ne peut pas célébrer plus d'une messe par jour sur le même autel. Donc il fallait, et on ne pouvait pas dire, deux messes en même temps. Alors, dans la société des religieux séculiers, ce n'était pas toujours suivi, mais régulier, oui. Donc vous avez ce plan qui est très extraordinaire, avec une élévation très simple, qu'on connaît uniquement parce qu'il en reste très peu de choses, et grandes arcades et puis les fenêtres hautes, et l'on voit en effet, et dans le choix de la pierre, et dans la mise en œuvre de la pierre, le plus haut niveau de ce qui existait au début du XIIIe siècle, vers les années 1200.
On est déjà dans le gothique.
On est complètement dans le gothique, c'est-à-dire, il y a eu des constructions peut-être, mais provisoires. Il y a eu sans doute une église en bois provisoire avant qu'on termine le monastère, mais l'église est tardive, ce qui est assez fréquent.
Et c'est une région où le gothique est quand même très très beau.
C'est une région d'abord, je dirais, c'est une période de création.
Oui.
De création intense, et l'argent est là. Et il y a un terme qui définit l'esthétique médiévale. Il y a deux mots. Il y a deux mots qui sont, à mon avis, fondamentaux. C'est vénustase, la beauté. Et quand je dis la beauté et séduction.
Oui.
La beauté et séduction qui sont tout à fait caractéristiques. Et d'autre part, c'est la péricia, l'habileté. Et pour la partie, par exemple, des convers, la construction est plus médiocre. Pour le monastère, elle est très supérieure, mais pour l'église, elle est éclatante. Et nous sommes, en ce début du XIIIe siècle, c'est la période de Chartres, etc., au plus haut niveau.
Oui,
au plus haut niveau.
Et ici, en Île-de-France, c'est vraiment le berceau, enfin, c'est le lieu d'expérimentation, de nouvelles façons de construire à cette époque, semble-t-il.
Non, c'est évident, mais il faut toujours se dire qu'une œuvre parfaite coûte, disons, 320 fois plus cher qu'une œuvre.
Oui, ainsi. Ça c'est donc, de tous les temps.
De tous les temps, mais il faut y penser, c'est-à-dire que ce n'est pas le hasard. Le choix de la pierre de Chaly, vous en voyez dans les parties qui sont moins belles, vous voyez tout de suite la différence, et dans les colonnes du chevet qui sont encore en élévation, la pierre est d'une densité très forte, la taille est absolument remarquable, et les joints n'existent pratiquement pas.
Donc,
c'est-à-dire qu'on a fait le maximum.
Oui, des tailleurs de pierre et les appareilleurs étaient vraiment de très très bons ouvriers.
Très.
Et le lieu de la carrière est-il connu ?
C'est très difficile pour la région parisienne parce que c'est un problème de bancs. Et les bancs s'étendent sur des kilomètres dans le bassin parisien et on ne connaît pas précisément l'endroit où on a creusé pour trouver la carrière, la profondeur notamment, mais la région de Senlis, à côté de laquelle on est, offrait plutôt des bancs de pierre d'une qualité. Mais le banc de pierre n'est pas forcément, toujours au même niveau.
Oui, bien sûr, ça n'est pas régulier.
C'est pas régulier.
Et d'ailleurs, à Senlis, on est frappé par la beauté de la pierre dans la ville encore aujourd'hui. C'est vraiment une zone, on peut dire, favorisée pour ça.
Il ne faut quand même pas oublier une chose, c'est que, comme aujourd'hui, quand vous allez dans une grande surface, vous avez des tomates à 3 sous et puis d'autres à 10 sous. Et il y a des gens qui achètent à 3 sous, d'autres à 10 sous. C'est pareil.
Oui, mais il y a des zones où il n'y a pas de pierre et où les moines ont été obligés de fabriquer de la brique. Alors c'était quand même beaucoup moins beau. Enfin,
non,
c'était autre chose en tout cas.
C'est évident que, l'éclosion du gothique n'aurait pas pu avoir ailleurs parce que la qualité de la pierre d'Île-de-France a permis des audaces techniques qui n'aurait pas été possible avec de la brique, c'est-à-dire la résistance, ce qu'on appelle la densité de la pierre était telle que l'on a pu, sur ces colonnes, on ne voit pas les photos ici, mais si on les regarde sur Internet, c'est très impressionnant de voir ces colonnes très minces qui arrivent à porter des poids
très élevés. Oui. Donc, on peut dire que le matériau a facilité la technologie. Nous avons de bons tailleurs de pierre parce que nous avons eu des matériaux qui s'y prêtaient et vice-versa. Sans doute, il doit y avoir un lien.
Vous savez, le lien est très simple. Je crois que dans la vie, les rapports humains sont fondés à la fois sur la confiance et l'exigence. La confiance, parce que vous faites confiance à certains êtres humains dont vous percevez qu'ils sont capables. Et l'exigence, c'est qu'ils peuvent beaucoup mieux et beaucoup plus que ce qu'ils croient pouvoir faire. Et les architectes gothiques, ou les commanditaires, etc., ont été extrêmement exigeants. Il suffit de lire... l'abbé Suger, qui est contemporain de ce dont nous parlons, on le voit très bien, très très bien. Il faut être exigeant. Oui. Il faut, dans la pierre, sans ça, c'est...
Oui, il faut être exigeant en général, de toute façon. Oui. C'est pas aux chercheurs qu'on l'apprendra, ouais. C'est quelque chose qui est, c'est sûr, de tous les temps. Et en tout cas, le résultat est vraiment magnifique. Alors, nous allons faire une deuxième petite pause et nous reprendrons après.
Nicolas Poussin et Orphée, la collection privée de Goethe, la gravure de Louis-René Berge, les méditations sur la beauté de François Cheng, les tableaux de Bernard Buffet, de Velikovitch, les œuvres de Pierre-Yves Trémoy, mais aussi le monstrueux dans l'art, ou Bosch et les tentations de Saint-Antoine, Canal Academy vous propose une série d'émissions sur l'art et de réflexions sur la beauté.
Nous sommes aujourd'hui à l'abbaye de Chalis avec M. Erland Brandenburg, conservateur général honoraire du patrimoine. Nous avons évoqué les débuts de l'ordre cistercien, les débuts de l'abbaye de Chalis, la grande qualité de la construction des débuts du gothique dans cette zone donc, du nord de Paris. Et donc maintenant, nous allons parler de l'histoire de l'église, de l'abbaye en général, après le Moyen-Âge. Donc après le Moyen-Âge vient la Renaissance. Alors, que se passe-t-il à ce moment-là ?
Alors, l'histoire de l'abbaye de Chalis ressemble étrangement à tout ce qui s'est passé en France. Je vais revenir sur l'époque de la Renaissance, mais dire un mot quand même du destin. C'est-à-dire, ces abbayes ont vécu tranquillement dans leur apparat roman et gothique jusqu'au XVIIIe siècle, date à laquelle, généralement, le monastère a été reconstruit de façon moderne et adaptée à la réalité.
Vous voulez dire les lieux d'habitation des moines ?
Le monastère lui-même,
voilà,
oui.
Voilà, c'est ça.
Et tandis que l'église n'était pas
l'église
touchée.
L'église reste...
Comme à Saint-Denis, où vous avez l'église gothique, mais le monastère est un très bel ensemble de Robert de Cotte, etc. Et à la Révolution, tout ceci va disparaître. Pour plusieurs raisons. D'abord, le nombre de moines était extrêmement réduit. Et deuxièmement, les lois antireligieuses ont nationalisé les biens du clergé.
Très tôt.
Très tôt, en 90, qui ont été vendus.
Voilà.
Et commence le long martyr de Chalis et le sauvetage par Madame Jacques-Marandré, qui rachète l'abbaye en 1902. Qui va se réinstaller dans cette abbaye et, 10 ans après, le cède à l'Institut qui va en faire un des hauts lieux de cette histoire un peu mouvementée. Et dans cette période moderne, il y a eu évidemment des travaux de conservation et de restauration. Il y a notamment dans cet ensemble une chapelle gothique qui est très belle, dont on ne comprend pas très bien d'ailleurs la finalité, qui appartient au milieu du XIIIe siècle, à l'époque contemporaine de la Sainte-Chapelle, et qui est de la qualité de la Sainte-Chapelle, mais en plus petit. C'est-à-dire, c'est un monument, sans doute un monument d'un grand architecte, nous ne savons pas lequel. Ce monument aurait pu disparaître, par chance n'a pas disparu. Au XVIe siècle, l'autre grande époque de Chalis, à la suite de l'accord de Bologne avec le pape, François Ier nomme lui-même à la tête des abbayes et des évêchés des personnages qui
n'appartiennent
pas.
De son choix.
absolument, qui ne sont pas toujours religieux, qui sont quelquefois laïcs. Et il nomme un très grand personnage, Hippolyte d'Este, qui était déjà archevêque de Milan, qui est archevêque de Lyon, et le nomme à Chaly, et il va se plaire à Chaly, il en parle. Et dans cette opération de Chaly, il y a deux souvenirs qui subsistent de cette grande époque. C'est le mur de la Roseraie, que l'on attribue aujourd'hui à Serlio, et deuxièmement, une peinture de l'Annonciation qui avait très mauvaise réputation. Très mauvaise réputation parce qu'elle a été restaurée avec les moyens de l'époque, qu'on ne ferait plus aujourd'hui parce qu'on connaît mieux le vieillissement des produits. Et cette peinture avait échappé jusqu'au jour où Jean-Pierre Bablon a lancé une opération de mécénat sur cet ensemble. C'est une annonciation qui obéit à un programme très strict voulu par Hippolyte d'Este, et ça a été une découverte absolument extraordinaire. Extraordinaire, d'abord, c'est une œuvre de peinture religieuse du primatis, il n'y en a pas énormément. Et si la partie basse de la peinture sur le mur occidental a été très fortement restaurée, toute la partie haute, à partir d'un certain niveau, sont extraordinaires. C'est extraordinaire parce qu'on trouve là le grand primatis, celui dont nous parlent beaucoup les textes, et je trouve que cette peinture monumentale éclate dans son œuvre aujourd'hui.
Vous la trouvez plus belle que la galerie François Ier ?
Je dis qu'en tout cas, la peinture a retrouvé son éclat d'origine, avec ses glacis, avec ce côté très subtil de la peinture, et que sur la galerie François Ier, oui. Je ne devrais pas dire ça, plane quand même beaucoup de restaurations.
Oui, oui, beaucoup. Puis Primatis n'était pas seul à la galerie François Ier. Oui, Rousseau oui. a joué un rôle important, d'autres artistes. Et puis les restaurations du XIXe siècle par Allot avaient été un petit peu lourdes, bien qu'elles aient été en partie allégées.
Mais... Oui. Mais là, si on l'a vu avant, et si on la voit aujourd'hui, un peu pour ceux qui l'ont vu avant, c'est absolument étourdissant.
C'est une résurrection.
C'est une résurrection. Et puis la légèreté du primatis, c'est vraisemblablement, enfin, on peut se tromper, il a tout peint lui-même.
Enfin, de toute façon, le primatis, on connaissait déjà ses dessins qui sont vraiment très très beaux. À mon avis, c'est parmi les plus beaux dessins que l'on puisse voir de cette époque au Louvre. Donc... Je pense que peut-être on retrouve mieux sa main de dessinateur dans ses peintures de Chaly que dans d'autres œuvres qui ont été davantage restaurées.
On a d'ailleurs un dessin d'un des personnages qui se trouve à Chaly. On a le dessin originel qui permet de juger de cette subtilité. Et quand vous regardez de près le dessin et la peinture, on se dit... Il a tout fait lui-même.
Oui.
Et quand je suis entré après qu'on ait enlevé les échafaudages, ça a été un tel éclatement. On se dit, l'homogénéité est là. Et puis, vraiment, le primatis est un très, très grand génie.
Et donc, Hippolyte d'Este avait été bien inspiré de lui demander de venir travailler. C'est quand même les grands commanditaires qui font les belles œuvres d'art.
Il n'y a pas de question dans ce domaine. Il n'y a pas d'artiste. S'il n'y a pas de commanditaire.
Oui, c'est sûr, à cette
époque. Et c'est le commanditaire qui choisit l'artiste.
Et Hippolyte avait quand même fait ses preuves.
Dans ce domaine,
c'était quand même pas n'importe qui. Le palais du Grand Ferrara
à
Fontainebleau, qui malheureusement ne reste que le portail aujourd'hui. Et des dessins, c'est vrai qu'on voit bien qu'on avait la chance d'avoir là un personnage qui avait toujours baigné dans l'art depuis son enfance à Ferrare. Et à Rome, il avait connu aussi tous les grands artistes. Donc, c'est tout de même une chance qu'on puisse avoir à la fois la présence de Primatis et la présence d'Hippolyte d'Este derrière lui. C'est très émouvant.
J'insiste un peu sur le point religieux, car cette peinture d'Hippolyte, elle a été pensée par Hippolyte. C'est l'expression de sa vision religieuse. C'est un véritable manifeste dogmatique, il a voulu affirmer là, notamment avec la figuration des évangélistes, des apôtres, etc., en soulignant à la fois l'Annonciation et la Trinité.
Oui, donc il ne faudrait pas croire que c'était uniquement un prélat de cour. Il avait ses convictions religieuses qu'il a donc voulu faire passer à travers sa commande.
Oui. Et ça, c'est un nouvel aspect d'Hippolyte, parce que comme vous dites, on a trop tendance à penser que c'était des artistes de cour. C'est vrai, ils étaient un peu mondains, etc. Mais il n'est pas impossible que derrière la mondanité se cache
la ferveur religieuse. Oui, c'est tout à fait possible.
En tout cas, maintenant, ça éclate dans cette peinture.
C'est vraiment un endroit où il faut aller, absolument.
Ah oui, je
il
crois,
faut
ouais.
voir cette chapelle et peut-être aussi aller au Louvre pour voir les œuvres, certaines œuvres de Primatis et ses dessins surtout. Enfin, moi, je suis très admiratif de Primatis dessinateur. Et la galerie François Ier aussi, qui, malgré les difficultés d'attribution, donne quand même aussi un autre aspect de son œuvre. C'est quand même un artiste qui a introduit, enfin en partie, le maniérisme à la cour de France. On a la chance d'avoir pu suivre son parcours depuis le Palais du Thé à Mantoue, où il était, un des bras droits de Jules Romain. Il a bien travaillé dans plusieurs salles du Palais du Thé, à la Salle des Vents, à la Salle des Stucs. Et bon, si François Ier avait voulu avoir Jules Romain lui-même, ça n'a pas été possible, mais il a quand même été assez bien servi, je pense, avec Primatis. Enfin, on peut penser que c'était quand même une assez belle venue que la sienne à Paris, à Fontainebleau, et donc à Chalice, il faut le rappeler.
Oui, je pense qu'on va être obligé de revisiter le Primatis à la suite de cette découverte.
Eh bien,
c'est-à-dire, ça donne une dimension au Primatis que l'on ne soupçonnait pas.
Oui, c'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup l'idée d'un artiste religieux en voyant ses œuvres.
Absolument.
C'est un nouvel aspect qu'il ne faut pas négliger. Et puis, en ce qui concerne l'abbaye elle-même, je pense qu'on peut aussi parler peut-être, pour cette œuvre de peinture, d'une adéquation avec l'architecture aussi, qui n'était peut-être pas facile à trouver, alors qu'il s'en est vraiment très très bien sorti. C'était quand même une architecture qu'il n'avait peut-être pas tellement l'habitude de pratiquer, mais il a très bien su insérer sa composition dans l'architecture. Et ça, c'était certainement difficile, mais c'est très très bien réussi. Voilà, mais je vous remercie beaucoup pour toutes ces indications. Et puis on peut-être inciter les auditeurs à aller voir, aller visiter cette abbaye qui est par ailleurs très belle aussi. Le lieu est très poétique.
Très beau,
et puis beaucoup d'académiciens s'y sont promenés. Émile Malle y est mort. Enfin, c'est un endroit plein de souvenirs.
Absolument.
Merci beaucoup.
Merci.